bonsoir. Un soldat français tué au Mali, l'annonce vient d'être faite par l'Elysée. Le militaire brigadier du 1er régiment de Spahis de Valence est mort après le déclenchement d'un engin explosif au passage de son véhicule blindé. Ce matin également, une cinquantaine de soldats maliens ont été tués au nord du pays dans l'attaque de leur poste militaire par les djihadistes. Les indépendantistes redonnent de la voix en Écosse, conséquence du Brexit dont les Écossais ne veulent pas. La première ministre Nicola Sturgeon promet de tout faire pour relancer le processus menant à l'indépendance. La rentrée scolaire retardée d'une semaine dans un quartier de Béziers. Après l'incendie volontaire d'une école jeudi soir, près de 300 enfants seront répartis sur différents sites à compter du 12 novembre. Dans ce journal également, 31 migrants pakistanais découverts cachés dans un camion sur la 8 en bonne santé. Ils ont été remis aux autorités italiennes. La première sortie collective publique des journalistes de Charlie Hebdo, près de 5 ans après l'attentat des frères Kouachi, c'était à Strasbourg pour un débat sur le journalisme et la censure. Les Springboks, rois du rugby mondial, ils ont déjoué tous les pronostics en battant les Anglais 32 à 12. En finale de la Coupe du Monde, c'est leur troisième titre mondial. Nadal, forfait pour la demi-finale du Masters 1000 de Paris. La finale opposera donc Djokovic à Chapovalov. Une application qui vient en aide aux parents pour inventer des histoires aux enfants, c'est la vie connectée de Christine Siméon. Et puis, la tempête Amélie, 7 nouveaux départements placés en vigilance orange au vent violent entre l'Auvergne et le Limousin. Département qui s'ajoute à ceux de l'ouest et du sud-ouest, où des rafales pouvant atteindre les 140 km/h sont attendues dans la nuit, accompagnées bien sûr de fortes pluies. Toutes les précisions avec Jean-Michel Golinski à la fin du journal.
France Inter.
Il s'appelait Ronan Pointeau, brigadier des Spahis. Il est mort ce matin au Mali, tué par un engin explosif. Bertrand Galichet, c'est l'Elysée qui vient d'annoncer la nouvelle il y a tout juste une demi-heure.
Oui, le brigadier Ronan Pointeau, âgé de 24 ans, issu du 1er régiment de Spahis de Valence, a été tué par l'explosion à proximité de son véhicule blindé d'un engin explosif improvisé. Ce soldat français de l'opération Barkhane a perdu la vie dans la région de Ménaka, dans l'est du Mali, tout près donc de la frontière du Niger. C'est également dans cette région, à Indélimane, qu'a eu lieu ces dernières heures l'attaque dans laquelle 49 soldats maliens ont trouvé la mort à la suite d'une opération terroriste, un secteur donc très exposé. Le militaire français a succombé à ses blessures après l'explosion de cette bombe, de ces engins souvent placés au bord des routes et déclenchés au passage des convois. Selon la ministre des Armées, Florence Parly, cette mort montre que le combat contre les terroristes au Sahel n'est pas terminé. La ministre annonce qu'elle se rendra très prochainement au Mali pour s'entretenir avec les autorités maliennes.
Quant au président de la République, il salue ce soir le sacrifice du militaire, disant penser à sa famille, bien sûr, et à tous ses camarades engagés dans les opérations au Sahel. Au Mali, ce matin, l'attaque d'un poste militaire par les djihadistes au nord-est du pays avait fait une cinquantaine de morts parmi les soldats maliens. C'est l'un des bilans les plus lourds depuis le début de la guerre en 2012. La preuve que les groupes terroristes non seulement n'ont pas été réduits, mais qu'ils se sont renforcés. À Hong Kong, les militants pro-démocratie restent mobilisés. Ils étaient encore des milliers à manifester ce samedi malgré les interdictions et les avertissements de Pékin. La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau en multipliant les arrestations. Et puis en Écosse, les indépendantistes redonnent de la voix. C'est la conséquence du Brexit massivement rejeté par les électeurs écossais qui avaient aussi rejeté l'indépendance d'ailleurs, mais tout a changé. Plusieurs milliers de personnes sont venues à Glasgow en soutien à la première ministre Nicola Sturgeon, qui se dit prête à relancer le processus. Marina Daras.
C'était la première fois que la première ministre écossaise prenait la parole officiellement à un événement indépendantiste depuis sa défaite lors du référendum de 2014. À l'époque, les Écossais avaient voté à 55% pour rester au sein du Royaume-Uni. Mais bien évidemment, le Brexit a ravivé les volontés sécessionnistes de l'Écosse, une Écosse profondément européenne puisque les Écossais avaient voté à 62% pour rester au sein de l'UE. Pour Nicola Sturgeon, qui était l'architecte du tout premier référendum sur l'indépendance de l'Écosse, le Brexit a dramatiquement changé les perspective de son pays et Westminster doit autoriser la tenue d'un nouveau référendum d'indépendance. Mais avec ces nouvelles élections législatives, le 12 décembre prochain, l'Écosse redevient importante aux yeux de Westminster. Alors devant une marée de drapeaux bleus et blancs, Nicola Sturgeon a promis de tout faire pour préserver la réputation de l'Écosse comme pays ouvert, solidaire et européen et de ne pas tomber dans le piège américain tendu par Donald Trump. Elle a également mis Jeremy Corbyn et Boris Johnson au défi de l'affronter lors d'un débat politique pour, dit-elle, enfin entendre leurs arguments. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
31 Pakistanais cachés dans un camion dans les Alpes-Maritimes. On pense bien sûr à la mort tragique des 39 migrants, principalement vietnamiens, retrouvés dans un camion frigorifique il y a 10 jours près de Londres. Cette fois, les clandestins, découverts lors d'un contrôle inopiné sur l'autoroute A8, étaient en bonne santé. Tous ont été remis aux autorités italiennes. Fabien Randriana Rissoa.
Surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le poste de péage de la Turbie entre la France et l'Italie est connu pour être un point sensible de la traversée de migrants. Hier, il est 4h30 du matin quand une compagnie de CRS de l'Orne procède à un contrôle sur un camion. À l'intérieur, 31 immigrés clandestins pakistanais, dont 3 adolescents d'une quinzaine d'années, pas de famille. Découvert au niveau d'un point de passage autorisé, une frontière symbolisée par le péage, tous les passagers clandestins, y compris les mineurs, ont été reconduits à la frontière et remis aux autorités italienne. Le chauffeur du camion, pakistanais lui aussi, est en garde à vue dans les locaux de la police aux frontières à Menton. Soupçonné d'être un passeur, il pourra être poursuivi pour aide aggravée à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Le parquet de Nice enquête désormais pour tenter de remonter jusqu'à un réseau et à de possibles commanditaires.
Sur ce sujet des migrants également, un arrêté municipal qui fait polémique à Calais où d'importantes festivités sont organisées ce week-end autour notamment d'un dragon géant. Les distributions de repas en centre-ville ont été interdites pour des raisons de sécurité, ce que dénoncent les partis de gauche et les associations en rappelant qu'un jeune Nigérian de 25 ans est mort jeudi soir intoxiqué par les fumées de son réchaud improvisé. À Béziers, 279 élèves qui ne pourront pas faire leur rentrée des classes lundi. Leur école du quartier des Tamaris a été sérieusement endommagée par un incendie jeudi, le soir d'Halloween, incendie criminel dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés. 17 classes ont été dévorées par les flammes, dont 2 entièrement détruites. Pour les enfants de cette école, il y aura donc une semaine de vacances, le temps d'organiser leur accueil ailleurs, Elena Loison.
Un retour en cours, mais pas un retour en classe. Ce ne sont pas les établissements scolaires alentours que la mairie de Béziers va mobiliser pour accueillir les élèves, mais des sites proches de l'école primaire. La répartition des élèves sera communiquée aux parents avant le vendredi 8 novembre. Au final, les enfants n'auront donc raté qu'une petite semaine de cours. Une interruption limitée, c'était la crainte des parents d'élèves. En attendant le mardi 12 novembre, la mairie demande aux parents de garder les enfants à la maison. Il y aura bien un système de garde mis en place à la maison de quartier Albert Camus, mais la priorité sera donnée aux enfants dont les parents travaillent, car elle ne pourra pas accueillir les près de 300 élèves concernés.
8 TGV sur 10 ce week-end sur l'axe Atlantique. Les prévisions de la SNCF n'ont pas changé. Après la grève au Technicentre de Châtillon, en banlieue parisienne, entre Paris, les Pays de la Loire, la Bretagne et le Sud-Ouest, le retour à la normale devrait prendre une semaine encore, quasi normale, dit-on, à partir de lundi, avec 9 TGV sur 10. La SNCF, qui reste suspendue au préavis déposé par les syndicats pour le 5 décembre contre la réforme des régimes spéciaux de retraite, une réforme qui n'a pas lieu d'être, a répété sur France Inter ce matin le président de la CFE-CGC, François Omeril, selon lequel le gouvernement ne dit pas la vérité sur ses vrais objectifs. François Omeril avec Alexandra Ben Saïd.
Les retraites, c'est 14% du PIB. C'est considéré, dans un pays comme la France, puisque pratiquement tout est par répartition, comme de la dépense publique. Bien, le projet derrière, c'est d'associer la masse totale des retraites qui sont versées à un équilibre budgétaire, et donc à terme de le faire réduire. Le projet à terme, c'est de diminuer le niveau des pensions.
Est-ce que vous voyez les cadres comme perdants de cette réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui ?
Les cadres, pour tout vous dire, ils ont été perdants de pratiquement toutes les réformes. Je veux dire par là que les cadres, l'encadrement en général, c'est le plus gros contributeur de la solidarité intercatégorielle. Et moi, je dis que c'est normal. Dans une société bien organisée, c'est celui qui a le plus les moyens de le faire qui doit financer au principal la solidarité. Mais il ne faut pas qu'il en soit exclu. Or, toutes les réformes qui se sont passées depuis maintenant bientôt plus de 20 ans, ont fait monter le niveau de contribution au dispositif de solidarité et ils ont petit à petit exclu de plus en plus ceux qui en étaient les premiers financeurs. Donc ça, effectivement, ça commence à être plus que fatigant.
Le président de la CFE-CGC, invité ce matin, dont n'arrête pas l'écho. Une agression au couteau dans un commissariat de Saint-Denis de la Réunion. Un homme d'une vingtaine d'années qui s'est jeté sur une jeune femme en criant « Allah Akbar ». Avant d'être désarmé, il n'y a pas eu de blessé. Le procureur de Saint-Denis a ouvert une enquête pour violence et apologie du terrorisme. Un public complètement Charlie cet après-midi à Strasbourg pour la première apparition publique collective de l'équipe de Charlie Hebdo depuis l'attentat de 2015. Le public était au rendez-vous à l'Opéra National du Rhin où des applaudissements nourris ont accueilli la rédaction de l'Hebdo satirique venue débattre de journalisme et de censure en marge du Forum mondial de la démocratie qui doit s'ouvrir cette semaine dans la capitale alsacienne sous très haute sécurité bien évidemment. Et c'est pour cette raison, parce que personne n'a oublié qu'il fallait être là, comme le dit un spectateur à Justine Leclerc.
C'est normal de venir les soutenir, parce que c'est encore le seul journal libre, hein, pour ainsi dire, parce qu'aujourd'hui on a affaire à des bonimenteurs qui sont les politiciens. Et c'est important de soutenir une équipe comme ça, surtout après ce qu'ils ont vécu. Je pense que refaire une équipe comme ils ont refait, et c'est important de lire, de soutenir cette presse.
Vous retenez quoi de cet après-midi? Qu'est-ce qui vous a marqué?
C'est une bouffée de chaleur, une équipe qui se remet en place. Ils sont toujours aussi corrosifs. C'est bien de les voir de temps en temps en vrai, parce qu'on les lit seulement à travers les dessins. Coco, elle est géniale. Elle ose, et c'est bien qu'elle ose.
Voilà, oser, c'est la preuve encore avec ce dessin de vue humain qui représente un monsieur loyal lançant ses débats de Strasbourg en annonçant pour la première fois en un seul morceau la rédaction de Charlie Hebdo à Strasbourg.
France Inter, Yves Decamp.
En sport, champion, les Springboks, troisième finale et troisième victoire en Coupe du Monde de rugby. Ils n'étaient pourtant pas favoris face aux Anglais ce matin, mais 32-12. Le score parle de lui-même. 2-0 pour les Sud-Africains, qu'il avait déjà emporté d'ailleurs en 2007 face à ces mêmes Anglais. Les Anglais qui pleurent et les Sud-Africains qui exultent à Johannesburg. Claire Bargelès.
Les visages sont rayonnants, les drapeaux vert et or levés bien haut. Marie n'a pas ménagé sa voix pour soutenir les Springboks devant l'écran géant. Et elle sort de la salle en dansant.
Je me sens incroyablement bien, je suis sur un petit nuage. On l'a fait, on a gagné. Je suis fière, tellement fière. Nos gars ont si bien joué.
Tous y croyaient dès le début et n'ont jamais douté du collectif entraîné par Rassi Erasmus. Les Sedi est fier aujourd'hui de porter les couleurs de son pays.
On ramène le trophée, on est tellement excités. Je suis fier d'être sud-africain. J'ai l'impression que moi aussi j'ai soulevé le trophée.
Le public a été particulièrement ému lorsque le capitaine Siya Kolisi a brandi la coupe aux côtés de ses coéquipiers. Pour Daniel, ce premier capitaine noir restera dans l'histoire.
Quand on connaît ses origines, son parcours, le fait que la dernière victoire, il l'a regardée dans une simple taverne, et voilà qu'aujourd'hui, il mène cette équipe jusqu'au bout, c'est assez motivant. Cela rappelle qu'il y a toujours de l'espoir et qu'on doit rester confiant.
Les supporters des Springboks attendent désormais avec impatience le retour au pays des champions et du trophée raflé aux Anglais. À Johannesburg, Claire Bargelès pour France Inter.
Et rendez-vous maintenant dans 4 ans en France pour la prochaine Coupe du Monde. En tennis, Djokovic en finale, mais pas Nadal. Au Masters 1000 de Paris, l'Espagnol a déclaré forfait pour la demi-finale qui devait l'opposer cet après-midi au Canadien Chapovalov pour douleur aux muscles abdominaux. C'est donc le Canadien 28e mondial qui aura l'honneur d'affronter le numéro 1, Djokovic, vainqueur du Bulgare Dimitrov. Une affiche a priori moins alléchante. Fabrice Abgral, pas de chance pour le public de Bercy, mais pas de chance surtout pour Nadal qui n'a jamais gagné à Bercy.
Raphaël Nadal s'est blessé ce matin à l'entraînement. Sur l'un de ses derniers services, il a ressenti une douleur aux abdominaux. L'Espagnol a mis fin tout de suite à son entraînement, il s'est reposé, puis il est retourné l'après-midi sur le court d'échauffement pour un dernier test, mais la douleur était toujours présente, suffisamment vive pour que l'Espagnol, la mort dans l'âme, renonce à son match contre Denis Chapovalov. Raphaël Nadal n'a souhaité prendre aucun risque de peur d'aggraver sa blessure. L'Espagnol est maudit à Bercy où il vient de déclarer forfait pour la troisième fois d'affilée. En 2017, il s'était blessé au genou juste avant son quart de finale. L'an passé, il avait renoncé juste avant le début du tournoi en raison déjà d'une blessure aux abdominaux. Raphaël Nadal ne veut pas parler de malédiction, mais il est clairement malchanceux à Bercy où l'Espagnol ne s'est jamais imposé depuis ses débuts professionnels en 2001. Raphaël Nadal est maintenant dans l'expectative. Dans l'état actuel des choses, il ne sait pas si cette blessure aux abdominaux va l'empêcher de participer la semaine prochaine au Masters de Londres, réunissant les 8 meilleurs joueurs de la saison.
Fabrice Abgral, allez raconter des histoires aux enfants, tout un programme. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
Il y a les livres pour enfants, bien sûr, et les bons conseils de Denis Chessou le dimanche soir sur France Inter. Mais voilà maintenant, pour aider les parents à inventer des histoires, une application appelée Creative Stories. C'est votre vie connectée du samedi soir.
C'est vraiment un coup de pouce en cas de panne. Écoutez ce papa raconter l'histoire du pirate Augustin.
Il regardait au loin et se dit « il faut vraiment que je trouve un endroit où accoster parce que je n'ai bientôt plus à manger dans mon bateau ».
Alain Daniel, qui est ici le papa entouré de ses quatre enfants, est aussi le concepteur de cette application Creative Stories. Donc, pour revenir sur l'histoire, le pirate arrive sur la plage, ravitaille son bateau en vivres et il se prépare à repartir. Et voici la suite.
Alors, il lève l'ancre. Allez, hop là. Il remonte l'ancre. Et il se met à partir avec tout ce qu'il a emmené dans son bateau. Et il y a quoi dans son bateau? Il a aussi emmené des animaux. Donc il a emmené une petite poule. Comme ça, la petite poule, elle peut pondre des œufs. Comme ça, il peut se faire une omelette. Il peut se faire une bonne omelette pendant son repas. Et il emmène aussi son ami qui s'appelle... Comment il s'appelle?
Corto.
Allez, il emmène son chien Corto.
Vous avez entendu? L'ancre, la poule, le chien. Ces bruits sortent du smartphone d'Alain Daniel, préparé pour l'aider dans l'application.
Voilà, donc ce n'est pas un jeu à télécharger pour les enfants, c'est une banque de sons et de bruitages qui sert à construire les récits.
Vous savez, parfois on se lance dans l'espace comme ça avec une fusée, puis arrivé sur Mars, on ne sait plus très bien quoi inventer comme histoire. Et c'est là que les sons rassemblés sur le thème de l'espace, par exemple, par Creative Stories, peuvent aider. Écoutez Alain Daniel.
Le fait de lancer des sons, on n'est pas obligé d'être le nez collé dans le téléphone pour amener votre héros... là où vous voulez l'emmener, si vous avez déjà identifié en visualisant le petit pictogramme qui le symbolise, le son que vous avez envie de jouer, et donc vous amenez votre personnage voilà jusqu'au moment où vous pouvez jouer ce son, ou alors que vous ayez plus d'idées et que finalement vous appuyez sur un son pour vous donner une idée et que le son qui va se lancer va conditionner la suite de votre histoire.
Visuellement, l'application ne présente pas d'intérêt particulier, si j'ose dire, rien de spectaculaire qui viendrait attirer le regard des enfants sur l'écran du téléphone. C'est gratuit, en tout cas au début. L'outil circule déjà chez les professionnels de la petite enfance et désormais, il s'adresse aussi au grand public.
Creative Stories à télécharger donc sur son portable. La vie connectée de Christine Simone, c'est à retrouver bien sûr sur franceinter.fr. Et on n'oublie pas non plus les podcasts de Radio France, podcasts bien nommés OLI, O-L-I, dans lesquels les auteurs lisent leurs propres textes, auteurs de livres pour enfants.